tous à la fois. D'aucuns diront que je ne suis pas autorisée à narrer ici cette histoire, basée sur une confession que j'ai recueillie. Je leur répondrai qu'ayant été déchue de mes fonctions, mes devoirs, dont celui du secret, tombent eux aussi. Sut lieu par une chaude nuit d'été. Rien ne laissait soupçonner qu'un extraordinaire événement allait arriver. Pas d'étoiles brillant le ciel, pas d'animaux au comportement étrange, sauf le vieux Tom qui aboyait. Mais le vieux Tom avait pour habitude de vociférer face aux astres. Personne ne s'en préoccupait plus. La seule fois où de nouveaux voisins s'en étaient plaints, moins trépides que peu au fait des us et coutumes de la région, son propriétaire, M. Barthélemy, avait eu tout fait d'étouffer l'affaire. Il fallait prendre en compte que M. Barthélemy était le maire et qu'il ne tolérait pas qu'on lui dicte sa conduite. Ses victoires consécutives à chaque nouvelle élection avaient bâti autour de lui une citadelle d'autorité, dont la prestance naturelle d'André Barthélemy suffisait à maintenir les remparts. Le vieux Tom n'avait donc pas à s'inquiéter pour ses libertés. Elles étaient sous bonne garde. Il pourrait encore longtemps pourchasser le hamster de la fille du boulanger, M. Toubert. En échange, le cabot garantissait à son maître une loyauté sans faille, la même par ailleurs dont le gratifiaient ses électeurs. Il bénéficiait en effet d'une confiance hors norme de la part des habitants du petit village. Sa réputation d'homme de bon conseil lui valait foison de visites où les problèmes les plus hétéroclites se bousculaient. Avait-on d'incompréhensibles maux d'estomac, un contentieux au sujet d'un héritage ou plus simplement un ragot à raconter, ce n'était ni chez le médecin, ni chez le notaire, ni chez un ami avisé que l'on se rendait, mais chez M. Barthélemy. Il avait bien fallu à l'élu se forger une opinion sur tout et rien. Dans le village, son jugement était pareillement sollicité que celui du roi Salomon en son temps. Ce fut néanmoins avec agacement que M. Barthélemy entendit retentir l'habituelle sonnette ce soir-là. Le ventre encore alourdi du dernier repas, il ouvrit sa porte à la nuit, aux moustiques et, sans le savoir encore, à la curiosité du monde. À peine eut-il entrebâillé la porte, qu'entrèrent en son cossu salon, le saluant tout respectueusement, une meute hétérogène de paysans, paysannes et enfants dont les yeux hallucinés se promenèrent bientôt sur la pièce, comme étonnés de se trouver si soudainement dans cet ordonné cocon. Le temps d'un instant, M. Barthélemy pantois et les intrus intimidés, rien ne se dit. Puis un homme, que le maire du petit village reconnut comme M. Théophile, un de ses administrés, prit la parole. M. Théophile était un fermier bourru et pragmatique dans la force de l'âge, qu'au fil des années la rude campagne avait doté d'une forte carrure en lui résistant, de même qu'à sa femme en lui résistant moins, de 6 enfants. M. Barthélemy n'avait eu affaire à lui que dans le cadre d'un litige anodin sur la propriété de chèvres égarées. Le fermier n'était pas du genre à se faire remarquer. Son allure d'ectoplasme et l'intrigante excitation qui perçait dans son langage se situaient pourtant à l'opposé de cette respectabilité. Il parlait avec grande rapidité. « Oh, on est venu vous voir immédiatement, monsieur le maire. Désolé si ça vous cause du souci, mais ça ne peut pas attendre. Vous n'allez pas y croire. » Monsieur Barthélemy, impressionné par les gesticulations de l'homme ainsi que par l'état d'intense émotion dans lequel il semblait se trouver, fit signe de continuer. « Il n'y a pas 2 heures, on mangeait doucement avec les cousins, et comme dans la fête, vous voyez, on faisait plus attention aux gamins, deux de mes rejetons, les cadets, ils sont partis en douce pour aller chercher des moustiques ou je sais quoi. Vous voyez, monsieur le maire, on peut pas avoir tout le temps les yeux sur eux, hein, puis comme je dis souvent, faut les laisser se débrouiller. » Et ensuite ?« Ensuite, voilà que d'un coup, on entend crier au dehors, alors moi et le cousin Paul, on va voir, hein, avec un fusil, parce qu'on sait jamais. » Ben, il fait noir comme pas permis, on voit plus rien à cause de ces saletés de nuages qui cachent la lune, on entend que des grenouilles. Là, le cousin Paul me demande s'il serait pas le loup. Parce que vous savez, hein, on a retrouvé pas mal de bestiaux dévorés ces temps-ci. Alors, du coup, moi et Paul, on fonce dans le noir en criant après les gosses. On n'a pas fait 2 mètres que les nuages laissent passer la lune, qu'on aperçoit la bestiole qui s'approche de mon petit Mathieu. Ah, c'est une bonne distance pour tirer, hein. Mais on veut pas blesser le petit, alors je lui dis de courir pendant qu'on essaye d'attirer la bête. Là, le loup hésite, puis se met à courir après mon petit qui allait vers l'église. En se précipitant aussi, mais voilà que ces saletés de nuages reviennent, on n'y voit plus rien. On fonce quand même vers l'église. Et là, il y a d'un coup un gigantesque boucan, une sorte de tonnerre d'été, vous voyez, hein. Puis plus rien. Entre-temps, on voit mon petit Mathieu assommé par terre contre la porte de l'église, avec la bête écrasée devant lui. Moi, je prends le gosse, hein, je vérifie. Il a le cœur qui bat gentiment. Paul, il observe la bestiole, hein. Et je
peux vous dire, une pareille, lui et moi, on n'en avait jamais vu. Elle grosse comme 3 moutons. Pas étonnant qu'elle faisait fuir nos chiens, cette bête-là. Sur le moment, j'y pense pas, mais après, on se demande comment le monstre s'est retrouvé crevé, hein. On n'a même pas tiré. On rentre à la maison pour rassurer tout le monde. Voilà que le gosse, il se réveille. Et il nous sort un truc comme quoi c'est une voix qui lui a parlé, que c'est le bon Dieu qui lui est venu en aide. Alors que là, on s'est tous mis à prier, hein, histoire de remercier au cas où. Moi, je dis, si quelque chose a terrassé cette bête-là, c'est sûrement pas mon petit Mathieu. Alors bon, devant l'église, je me dis, qui ça peut être d'autre?
Le silence se réinstalla. Monsieur Barthélemy, encore ébahi par l'histoire qu'on venait de lui conter, se rendit vite compte de ce que tous attendaient de lui. Qu'il décida s'il y avait miracle ou non, si les habitants du village allaient redoubler de piété pour les temps à venir ou non. Le silence ne devait être rompu que par sa voix. Le silence ne devait être rompu que par sa voix. Les visages respectueux attendaient sa décision. Sans négliger le côté théâtral de la situation, il s'assit sur un des fauteuils rembourrés et adopta une pose de réflexion intensive. Tous étaient suspendus aux lèvres de celui dont on ne doutait pas que l'esprit avisé allait statuer sur le fait, surnaturel ou explicable. Le maire se leva.
« Vous dites, monsieur Théophile, qu'il y a eu une détonation des plus impressionnantes, cela par un temps des moins orageux. Bah, »« Demande à mon cousin Paul, on aurait dit que la terre tremblait. »«
Bien. Et vous dites que, au moment précis où cela est arrivé, la nuit s'est établie au point que vous n'y voyez plus goutte ?»«
Ah, pas plus que dans le fond d'une grotte à minuit. »«
Vous affirmez que le loup était anormalement massif ?»«
Ah, vous devriez voir la bête. » »«
Et votre fils, même remis de son émoi ?» confirme avoir entendu une voix qu'il a reconnue comme celle du Seigneur.
Je peux vous dire qu'il n'oserait pas me raconter des sornettes.
Et il aurait pu néanmoins, par émotion, confondre la voix du Seigneur et la vôtre.
On pouvait facilement imaginer la grosse voix aux accents tonitruants de Monsieur Théophile dans la bouche du Seigneur, en admettant toutefois que Dieu eut un accent à couper au couteau. Le paysan s'en défendit pourtant.
Je vois plus exactement la scène, comme si je causais, j'étais trop inquiet pour ça, mais si je disais quoi que ce soit, ça devait plus être des gueulés que des beaux mots, après j'en sais trop rien.
Un court instant, M. Barthélemy rassembla ses pensées. Puis, il énonça d'un ton impressionnant d'assurance.
Eh bien, cette extraordinaire conjonction de faits anormaux, ou du moins étranges, leur quasi-simultanéité, le lieu de leur action, tendent à montrer que d'une manière ou d'une autre, notre Seigneur miséricordieux ne désirait pas voir l'existence de votre petit Mathieu s'achever ainsi cette nuit-ci. Faites-lui en grâce en lui accordant vos prières avant d'aller dormir, et vous allumerez autant de cierges qu'il vous semblera bon à l'église dès demain. Toutes ces émotions vous ont fait mériter votre repos, et je suggère que vous alliez vous coucher maintenant.
Les paysans, comme apaisés, partirent en souhaitant le bonsoir. Avant de sortir, le père de Mathieu se retourna brusquement et, quelque peu gêné, tendit à M. Barthélemy une touffe de ce qui ressemblait à des poils d'un animal. Il déclara que son fils, encore après l'accident, tenait la chose dans sa main aussi fermement que possible. Il s'étonna du fait que ses poils ne semblaient pas être ceux du loup, salua et disparut dans la nuit. M. Barthélemy posa promptement les poils lui inspirant un léger dégoût, et dont il ne savait que faire, sur un guéridon, puis elle a fermé la porte à tous les insectes nocturnes qui se pressaient dans leur quête de lumière. Ensuite de cela, le couple Barthélemy monta se coucher, et le maire, les yeux clos, se laissa aller à la satisfaction de l'orgueil comblé. Il avait su accomplir ce que l'on attendait de lui. Il avait su paraître réfléchi face à ses émotifs administrés, ne pas les décevoir sans se placer dans l'excès, contenter chacun tout en renforçant son honorabilité. Il avait su, également, se donner l'impression de sa propre supériorité. Il s'endormit, s'imaginant la grandeur d'un guide des consciences. Il ne croyait pas si bien rêver. Le lendemain, le maire se réveilla comme à son habitude, juste après que son épouse eut fini de préparer le petit déjeuner. C'était là une sorte d'instinct naturel dont on ne savait s'il fallait l'attribuer à la routine ou à un quelconque opportunisme aussi enfoui qu'inconscient. Toujours est-il que M. Barthélemy se leva, toute trace de sommeil disparue, et s'habilla avec célérité. Il se vêtit d'une sobre redingote et d'un pantalon ligné, habit qu'il s'évertuait à porter, bien qu'on eût un jour l'indélicatesse de les déclarer vieux jeu. Il lui conférait cependant le sérieux qu'exigeait sa charge, ainsi qu'à un certain maintien. Le maire du petit village était néanmoins doté d'une certaine bedaine, mais de celle qui rassure sur la respectabilité de la personne à qui l'on s'adresse. Sa taille moyenne contribuait à l'aboutissement, somme toute, à une silhouette équilibrée. Comme s'emboîtant parfaitement avec tout cela, son visage aux quelques rides de sagesse, au double menton naissant et aux yeux qui eussent été porcins s'il n'avait été inquisiteur, s'inscrivait dans une apparence que la femme de M. Barthélemy aimait à juger admirablement bien construite. Cette harmonie semblait chez lui une marque de fabrique. Son esprit était tout à fait pareil à son salon, lieu confortable où il faisait bon s'isoler, les meubles entretenus avec soin ne se voyaient déplacés que rarement et n'avaient jamais à souffrir de nouvelles intrusions. Il était agréable de se reposer sur les fauteuils aux accoudoirs rembourrés. Les murs étaient couverts de sobres tapisseries et ne supportaient que quelques rares tableaux dont l'exotisme semblait absent. Une grande horloge rythmait de son pendule l'atmosphère et la lumière filtrée par d'épais rideaux peinait à se répandre dans chaque coin. Il y avait néanmoins de la poussière sous le tapis. Monsieur Barthélemy descendit prendre son petit déjeuner dans le calme matinal. Rien ne lui plaisait plus que de manger ses croissants dans la salle à manger, en lisant les journaux sous les rayons du soleil illuminant son début de journée. À son grand déplaisir, il entendit sonner, à peine s'était-il assis. Le maire alla néanmoins ouvrir en maugréant. Il trouva devant sa porte un petit groupe de gens qui avaient apparemment profité de leur départ pour le travail pour passer par ici. L'horaire gêné disparut vite pour être remplacé par la curiosité lorsque l'un d'eux demanda «
Excusez-nous, monsieur le maire, mais on voulait savoir. Est-ce bien vrai l'aventure qui est arrivée au rejeton Théophile et tout ce qu'on raconte là-dessus ? »
Oui, c'est effectivement une histoire étonnante.
Ah, merci, monsieur le maire. Bonne journée.
Sans un mot de plus, le petit groupe s'en alla. Monsieur Barthélemy les observa un instant depuis le palier et vit qu'ils s'étaient mis à parler vivement entre eux. Il haussa les épaules et rentra, partagé entre l'agacement de cette vue dérangée la satisfaction de voir sa parole instamment demandée. Il n'avait plus maintenant l'esprit à petit déjeuner en paix. Il décida de se rendre sur le champ à son travail. Monsieur Barthélemy tenait une librairie. Sa charge officielle de maire n'occupait que peu de son temps et, de ce fait, il en passait considérablement dans son magasin. La librairie paraissait incongrue dans ce petit village, mais cela n'avait pas empêché Monsieur Barthélemy d'en reprendre la gérance à la mort de l'ancien propriétaire. À sa connaissance, elle avait d'ailleurs toujours existé. Le manque de clientèle ne gênait aucunement le maire. Grâce à un héritage, M. Barthélemy n'avait jamais perçu l'argent comme un réel souci. La boutique était exiguë et poussiéreuse. Des classiques pour la plupart, sans jamais aucune nouveauté, s'alignaient sur les quelques étagères. André Barthélemy s'installa donc derrière le comptoir, s'attelant à la lecture des Misérables, dont il avait toujours apprécié les personnages, même si au fond, la littérature le laissait de marbre. Un moment plus tard, survint le client le plus assidu de la boutique, celui que tous dans la région appelaient le comte. Il possédait un manoir à l'écart du village, était collectionneur d'armes, et l'on n'en savait pas beaucoup plus. C'était un homme foncièrement atypique. Souvent, il venait, et sans même accorder un regard à M. Barthélemy, il passait de longues minutes à regarder, observer, feuilleter les livres, toujours d'un air profondément dédaigneux. Il promenait sa moustache sévère sur les rayons, tandis que sa canne au pommeau défraîchi menait son pas. Jamais il n'avait acheté un seul livre. Il lui arrivait, après avoir accordé quelques minutes d'attention à un ouvrage, de lever la tête vers M. Barthélemy et de déclarer « Fouteuse !» Sur ce, il le refermait, le reposait, et avec l'air guindé de celui dont rien ne mérite l'intérêt, s'en allait. Le maire avait préféré ne pas tenir compte de cette attitude. Il considérait le comte comme d'une autre classe et tolérait ses excentricités. Ce jour-ci, le comte répéta son manège et après quelque temps se dirigea vers la porte. Juste avant de sortir, il s'arrêta devant le comptoir et M. Barthélemy, dans un moment d'espoir, crut enfin à un échange de politesse. Mais le comte dit sèchement « Vos histoires ne m'intéressent pas !» Après quoi l'homme s'en fut. Le libraire s'était replongé dans sa lecture lorsqu'il entendit que l'on se garait devant sa vitrine. La camionnette de l'épicier venait de s'arrêter. En sortit son propriétaire qui, avant que M. Barthélemy eût le temps de s'interroger sur sa venue, entra dans la boutique. Monsieur Tanzo tenait depuis des années le rôle d'épicier du village. Très au fait des activités de chacun, il apparaissait invariablement vêtu de son tablier de travail sous la forme d'un petit homme replet à la moustache noire rôde et dont les yeux brillaient perpétuellement d'énergie. Par ailleurs, l'épicier Tanzo faisait partie des administrés qu'André Barthélemy s'autorisait à appeler « cher ami », sans que ce fût vraiment le cas. L'homme vint serrer la main du maire avec un grand sourire, d'autant qu'il admirait beaucoup sans pour autant en être intimidé. Prenant soudain un air plus retenu, il questionna M. Barthélemy.
Et je me suis dit, pour être bien sûr du bruit qui court, personne ne me sera plus utile que ce cher monsieur le maire. Alors, n'y tenant plus, je vous le demande, mes différents clients, un à un, m'ont tous rabâché la même rancobolesque histoire et je vais vous confier quelque chose, monsieur le maire. J'ai bien la foi, ça je peux vous le dire, je vais tous les dimanches à l'église. Mais malgré ça, j'ai de la peine à croire cette histoire. Alors, j'aurais voulu savoir, vous en dites quoi, vous ?
Monsieur Barthélemy, dans un soupir qui se mua en sourire car il avait conscience de son rôle, dit en retour « Je certifie que tout cela est des plus véridiques, cher ami. »«
Ah, eh bien si c'est vous qui le dites, oh, bah je vais y aller alors. Au revoir. Merci, monsieur le maire. »
Il partit au volant de sa camionnette. S'ensuivirent les visites de plusieurs autres des administrés de monsieur Barthélemy qui tous posaient la même question et à qui le maire tenait le même langage donnant sa garantie. Jamais la petite librairie n'avait connu telle influence. Monsieur Barthélemy commençait à penser qu'il avait sous-estimé la propension du villageois à considérer cette affaire comme importante. Néanmoins, il tenait pour partie intégrante de sa charge de maire le fait de distiller son savoir à ses électeurs. De même que de les voir faire montre d'une telle confiance le flattait considérablement. En fin de journée, il ferma la librairie et rentra chez lui. Le soir venu, il se coucha paisiblement. Le chat de Madame Barthélemy était aussi angora qu'impatient et savait exprimer de toute sa vigueur l'absence de cette vertu. Miaulant et gémissant au moindre mécontentement, il provoquait souvent celui de ses maîtres en ramenant à leur attention le fruit de ses chasses nocturnes. Ainsi, le couple Barthélemy se réveilla-t-il quelquefois à l'odeur d'un sanguinolent muridé. L'animal voua une affection toute particulière à M. Barthélemy qui, lui, le haïssait de tout son cœur. Maraudeur, c'était son nom, ne devait son salut qu'à la pitié d'Irène Barthélemy, qui l'avait recueilli alors qu'il était perdu. Ce matin-là, donc, Maraudeur, probablement offusqué d'une chose ou d'une autre, adressa à ses maîtres une longue diatribe. Ceux-ci ne tardèrent pas à se réveiller, et M. Barthélemy débuta ainsi sa journée. Il se laissa ensuite guider par l'odeur du café, dans lequel il imaginait déjà tremper un croissant. Cependant, c'est moins son odorat que son ouïe qui fut tout à trac sollicité. Pour la seconde fois en cette matinée à peine entamée, un petit cri surpris, dont le maire savait par expérience qu'il avait pris son origine dans la gorge de Madame Barthélemy, puisqu'il s'en était enfui entre ses lèvres pour finalement se faufiler entre les doigts placés là dans une ultime et vaine tentative d'obstruction. Monsieur Barthélemy se décida à rejoindre sa femme, qui se tenait à la fenêtre, le rideau soulevé. On avait monté une tente dans le jardin, les sardines bien plantées sur le gazon choyé de M. Barthélemy. Celui-ci, outré de cette singulière intrusion, fut prompt à réagir et s'aventura dans la grisaille matinale pour juger de ce qu'il en était. De même qu'on ne peut toquer à une tente, on ne peut ouvrir son rabat à toute volée. Et l'élu du petit village n'eut d'autre solution que de défaire la fermeture éclair dans une silencieuse et frustrée frénésie. Quel cocon délicieux que l'intimité d'une tente! Mais combien se révèle-t-elle fragile lorsque l'on y voit débouler un inconnu à l'air mauvais? C'est à ses dépens que le remarqua Arnold Pfister.
« Que diable faites-vous chez moi ?» hurla M. Barthélemy au petit individu roux et moustachu qui se trouvait étendu à ses pieds,
tout juste émergeant des limbes.
« Ah, well, je pourrais aisément vous retourner la question, monsieur. »«
Barthélemy, vous êtes dans mon jardin ?»
Le propriétaire des lieux se radoucit passablement devant l'air inoffensif de l'étranger au fort accent anglais et pensa M. Barthélemy à l'apparence d'un hibou. Celui-ci reprit
« Barthélemy, oh really, oh je suis chanceux !»
L'infortuné campeur se leva et tendit gracieusement la main à son interlocuteur.
« Arnold Pfister, enchanté, vraiment. Vous prendrez bien une tasse de thé ? J'ai un réchaud. »«
Mais c'est absurde, monsieur, j'habite juste à côté !»
Monsieur Barthélemy avait-il à peine réalisé que ce qu'il avait voulu, une simple expression de sa perplexité, pouvait très bien être pris comme une invitation, que déjà Arnold Pfister, ravi, répondait « Avec pleasure ». Ce fut donc devant une tasse de café pour l'un et de thé pour l'autre qu'André Barthélemy et Arnold Pfister firent connaissance. Cet antagonisme fondamental, et qui permettrait de diviser le monde en deux, ne fut, si ce n'est le moindre, du moins pas le seul à se poser en évidence entre les deux individus. Arnold Pfister était à l'opposé de tout ce que le maire du petit village avait jamais fréquenté. Ainsi, celui-ci apprit que l'envahisseur impromptu de son domaine débarquait franchement d'Angleterre, et que, arrivé jusqu'ici de sa traversée de la Manche, cela avait été une autre paire de manches pour trouver où loger la nuit surgissant, à la manière de sa victime, tout à fait à l'improviste. Cet embarras n'avait été toutefois que très relatif, puisque l'homme possédait, depuis maintenant des années, une prudence tant influente qu'elle lui dictait d'emporter dans tout déplacement cette même tente qui avait si regrettablement troublé la quiétude matinale de Madame Barthélemy en premier lieu, puis de son mari. Cette explication fut livrée à la satisfaction du maire du petit village, mais il en fallait plus pour rassasier sa légitime curiosité. Nonobstant toute retenue, il demanda à qui il avait affaire. Il s'avéra que M. Pfister était journaliste. En fait, le petit homme que M. Barthélemy avait accueilli se distinguait en bien des points de ses confrères. Il le revendiquait d'ailleurs, se définissant dans les situations n'exigeant pas la modestie bienséante par le terme de « grand reporter ». Dans le milieu du journalisme, on avait pris coutume de le surnommer « l'acteur-réalisateur », depuis qu'eut pesé sur lui le soupçon d'avoir orchestré et monté de toutes pièces un putsch dans une petite république insulaire aride des vêtements, où les dirigeants de son journal avaient cru bon de le nommer correspondant permanent, en vue de se débarrasser de l'électron trop libre qu'il représentait. Il en avait rapporté un reportage fracassant, dans les coulisses d'une révolution. Si ses manières s'écartaient parfois du conventionnel, on ne pouvait lui retirer l'extrême vigueur avec laquelle il exerçait son métier. Une force qui n'apparaissait pas au premier abord. Ses lointains ancêtres irlandais ne lui avaient légué pour seul héritage qu'un incorrigible entêtement, omettant d'y ajouter les attributs corporels d'un batailleur de comptoir. Monsieur Barthélemy, ignorant tout cela, fut néanmoins flatté lorsque, à son plus grand étonnement, ce journaliste lui demanda son accord pour quelques questions. « C'est en mon honneur, cher ami, que vous avez entrepris un tel voyage. »« Ah oui, pour ainsi dire, oui, tout à fait. » En matière d'entrevue avec un journaliste, M. Barthélemy n'en était certes pas à sa première expérience. Il n'avait néanmoins jamais eu à répondre à plus gradé que des émissaires de gazettes locales que sa qualité de maire l'avait naturellement amené à recevoir. Et il devina vite que le taux d'imposition, réfection des lieux publics et autres de ses préoccupations habituelles ne seraient cette fois pas de mise. Pouvez-vous indiquer avec tout le détail que votre connaissance des faits autorise ce qui est arrivé il y a 2 jours de cela ? Commença Arnold Pfister dans un français qui, si l'on s'en tenait aux intonations, aurait tout aussi bien pu être de l'anglais. Comment avez-vous eu vent de cela ?
Oh, le bouche à oreille.
Alors, pourriez-vous ? Insista-t-il comme impatient. Bien que surpris d'un bouche à oreille qui, non content de traverser la Manche, l'effectuait assez vite, en moins de 2 jours, pour en ramener un anglais, M. Barthélemy narra au curieux journaliste les péripéties du fils Théophile et de quelle manière celle-ci lui était parvenue. À plusieurs reprises, le Britannique enjoignit son interlocuteur de lui préciser certains points, certains détails, certaines impressions. Il griffonnait dans un petit calepin tout en relevant parfois la tête, comme pour s'assurer de ne pas avoir perdu l'attention du maire. Lorsque M. Barthélemy vint au bout de son récit, il s'ensuivit un long moment où l'on n'entendit plus que le bruissement frénétique du crayon sur le papier. Puis Arnold Pfister posa ses notes et parut plus détendu.
« Et cela s'est produit devant l'église, n'est-il pas ?»«
C'est exact. Que voulez-vous ? Il faut croire que notre bon seigneur n'était pas loin. »«
C'est ce qui paraît, incontestablement. » « Il ne reste aucune trace matérielle de tout cela ?»«
Aucune, si ce n'est le corps du loup, bien sûr. Ainsi que...
Attendez un instant, s'il vous plaît. »
M. Barthélemy se leva pour aller se saisir du petit amas de poils que M. Théophile avait cru bon de lui transmettre et qui n'avait plus été déplacé après avoir été posé sur le guéridon. « Voilà ce que le fils de mon administré tenait dans ses mains.
même après qu'il eut retrouvé ses esprits.
Vous permettez ?
Oh, allez-y. Le maire tendit la touffe à son hôte qui l'examina aussitôt.
Eh bien, si ce ne sont pas les poils du loup, ce ne peuvent être que ceux du Seigneur.
Monsieur Barthélemy, qui avait déjà entendu parler du fameux humour anglais, se décida à rire et hocha la tête. Bonhomme, sans aucun doute.
Bien, monsieur, je vous remercie infiniment et je vous donnerai des nouvelles de mon reportage. Je travaille en journaliste indépendant et j'espère en tirer quelque chose.
Tout le plaisir est pour moi. Au plaisir de vous revoir. En fait, Monsieur Barthélemy eut encore à sa vue le journaliste durant quelques instants, le temps que celui-ci s'escrima à démonter sans brio la tente installée sous ses fenêtres. Après ces débuts inaccoutumés, la journée d'André Barthélemy se déroula dans un morne cortège d'activités routinières. Néanmoins, il se réjouit longuement des réactions que ses administrés ne manqueraient pas d'avoir en apprenant que l'on venait d'Angleterre pour écouter celui qu'ils avaient élu. Non pas qu'il nourrissait en son orgueil la vanité d'une gloire quelconque, mais plutôt qu'il se voyait incarné dans les chaumières l'étalon sûr du bon sens qui, sobrement, rassurait les uns, impressionnait les autres et donnait une direction à l'opinion de chacun. Lorsque M. Barthélemy se coucha le soir venu, le sommeil le trouva serein. Le lendemain, il se réveilla comme de coutume et s'apprêta pour petit déjeuner, ce doux rituel mêlant café, croissants et journaux. Monsieur Barthélemy avait pris pour habitude de se faire livrer chaque matin deux quotidiens différents, le premier de stature régionale et le second de renom national. C'est avec amusement qu'il avait toujours pu constater à quel point leur contenu différait dans la façon de traiter les sujets comme dans la nature de ceux-ci. Cependant, ce jour-là, s'y étalaient des titres semblables. On parlait d'un côté de « Dieu venant au secours d'un enfant » et de l'autre, dans un scepticisme rabat-joie d'un simple, extraordinaire événement. Les quotidiens citaient Arnold Pfister, qui avait eu le mérite de s'exprimer sans la délicatesse encombrante des enquêteurs trop méticulés. Cet événement étant surprenant par sa grandiosité, par sa promptitude que par son efficacité. Et comme l'affirme le maire du village où tout a eu lieu, André Barthélemy, on ne peut douter que notre bon seigneur n'était pas loin pour sauver du péril atroce qui le menaçait, le jeune innocent. Monsieur Barthélemy, homme d'un grand sérieux, va même jusqu'à se laisser gagner, et c'est tout à son honneur d'en faire part ouvertement, par l'idée selon laquelle le Créateur aurait pu laisser quelques poils dans l'affaire. On a en effet trouvé sur le lieu du miracle, donnons aux choses leur nom, une intrigante touffe de poils. Celle-ci subira une analyse ADN dont on ne sait exactement qu'espérer. Les habitants du village, quant à eux, se sont déjà familiarisés à l'idée d'un miracle. Et si on parle toutefois encore moins volontiers d'élus que de bénis, la chose ne saurait tarder. Dans cette mystérieuse affaire, l'homme dont on serait le plus en droit d'attendre des éclaircissements, le père Inan, curé de la petite église théâtre des événements, se borne à louer la piété de ses paroissiens qui semblent avoir été si grassement rétribués. Pour une fois, qu'on ne parle pas de punition, on peut être fichtrement content. L'article du journaliste anglais se terminait par quelques commentaires recueillis chez des habitants des environs, des convaincus qui eussent pu être témoins du miracle, pour peu qu'il l'ait été. Ayant terminé sa lecture, M. Barthélemy but son café. Tout affecté qu'il était de cette élévation au titre d'homme de grand sérieux, il ne pouvait se permettre quoi que ce fût d'autosatisfaction. Il se sentait en effet brûlé sous le feu du regard de ces milliers de lecteurs qui, comme lui, avaient découvert les nouvelles du jour et qui avaient dès à présent la connaissance, l'assurance, la certitude de l'existence de M. Barthélemy, et surtout de son grand sérieux. Ainsi, le maire du petit village ne relut-il pas une seule fois l'article d'Arnold Pfister. Sans ferveur ni contentement, il finit son repas. Peu après, eut lieu l'événement qui prit tous les aspects d'une consécration. La télévision arriva. Une clique entière s'empressa de se saisir de M. Barthélemy, qui, pour la première fois de sa vie, se vit maquillé. On l'installa dans son salon, on lui ordonna d'orienter son regard vers un angle précis, et l'on fixa tout autour de lui des caméras, des microphones, beaucoup de câbles, ainsi qu'une journaliste. Tandis que tout cela s'enclenchait, on brancha un sourire sur le visage de l'intervieweuse, et tout fut fin prêt. Le maire du petit village, introduit en tant qu'homme de la situation, eut à répondre peu ou prou aux mêmes questions qui déjà lui paraissaient familières à propos des récents chamboulements de sa communauté. Lorsque la journaliste lui demanda sur un ton plein d'attente, accoutumé aux politiciens,
quelle mesure il allait prendre, M. Barthélemy, bien que n'ayant jamais rien envisagé de tel auparavant, répondit avec l'assurance exigée qu'un service d'hébergement des pèlerins qui désireraient louer la bonté du Seigneur au plus proche du théâtre de son action serait mis sur pied. L'intervieweuse, satisfaite, remercia André Barthélemy qui lui-même se retint au dernier moment de la remercier de l'avoir invité sur ce plateau dont il avait oublié qu'il constituait son salon. Après quoi, tout fut remballé et c'est en un clin d'œil que disparut la troupe entière, non sans qu'un technicien félicita M. Barthélemy pour, s'en dit-il, un professionnalisme exceptionnel. Le maire avait fait bonne impression. Plus tard, celui-ci ne se regarda pas à l'heure de l'émission, trop conscient du fait qu'il en entendrait bien assez tôt les échos par ses administrés. En revanche, il se mit dans l'immédiat au travail quant à l'établissement de ce service d'hébergement si soudainement prôné. C'était maintenant ce qu'attendraient de lui des milliers de téléspectateurs. Et pour rien au monde, il ne les aurait déçus. Hugo Diable avait 62 ans et détestait l'incertain. Tout ce que les chiffres ou la logique échouaient à prouver ne recevait de sa part qu'un cynisme désabusé. Dès sa plus tendre enfance, sa haine de l'incertitude l'avait mené à ne jamais prendre le bus, à ne jamais attendre le Père Noël, ne jamais jouer au dé, ne jamais sortir par un temps changeant, ne jamais, surtout, se fier à ses congénères. Ce principe avait fait de lui un brillant scientifique, brillant toutefois d'un éclat sans chaleur. Sa vocation s'était révélée dans la génétique. Il avait, plus tard, minutieusement choisi sa femme, au seul regard de son patrimoine génétique. De même qu'il avait prévu à la perfection la combinaison de celui-ci au sien, afin d'être certain d'engendrer une descendance à sa convenance. Après des années à décortiquer des hélices d'ADN dans son laboratoire, il avait enfin épousé la femme qui lui donnerait ses prévisibles enfants, impatient d'observer le résultat de sa plus grande expérience. Ceux-ci ne vinrent pas. Hugo Déhab n'avait pas compté avec l'incertitude qu'il avait voulu infertile. Il avait alors continué de vivre et de travailler jusqu'à devenir un spécialiste de renommée mondiale. Spécialiste à qui Arnold Pfister avait cru bon de confier l'analyse de l'échantillon de pilosité qui avait voyagé des mains du fils de M. Théophile jusqu'à lui. Le généticien s'était facilement acquitté de la tâche et, lorsqu'il fut prêt à en dévoiler les résultats, le journaliste anglais le pria instamment de s'exécuter dans le cadre d'une conférence de presse pour donner à la chose le retentissement qui lui était dû. Par un après-midi pluvieux, le généticien se retrouva donc face à plusieurs rangs de journalistes, dont le commanditaire de l'affaire entière, Arnold Pfister. Hugo Diable commença abruptement, n'ayant cure de ceux des auditeurs qui étaient encore inattentifs. « Messieurs, mesdames, je serai bref. On m'a fait venir ici dans le seul but de vous divulguer le résultat de mon analyse d'un poil, vraisemblablement rat, d'aspect animal et d'apparence somme toute quelconque. » Ce qui, j'ignore pourquoi, paraît attirer foule. Les journalistes prêtèrent peu d'attention au ton goguenard du conférencier qui passait pour un original. Celui-ci poursuivit en éructant dans un jargon d'initié une foison de caractéristiques du génome qu'il avait étudié. Un impatient, comme il en existera toujours, n'y tint plus et demanda ce qui, en fin de compte, en ressortait. Diable, qui n'attendait que ça, délaissa ses airs scientifiques pour déclarer « Mais monsieur, d'un hamster, évidemment !» On cria à la farce dans un brouhaha offusqué. Arnold Pfister, impassible, interrogea Diable avec une étrange déférence. « Vous en êtes certain ?» Ce genre de question, précisément, avait le don de rendre son sérieux au généticien. C'est écrit dessus. « Je suis formel. » Le reporter demanda alors « Ainsi Dieu, d'une quelconque manière, aurait choisi la forme de ce mammifère pour s'incarner parmi nous. » Le scientifique, qui avait déjà entendu parler du fameux humour anglais, hocha la tête.
« Sans aucun doute !»
Hugo Déhabe regretta bien vite sa complicité dans la plaisanterie, qui était de toute évidence tombée à plat. Aucun rire ne fusa dans le silence, les journalistes griffonnant tous avec une ferveur étonnante dans leur calepin. Excepté Arnold Pfister, qui téléphonait à un vieil ami du milieu, rédacteur en chef d'un journal télévisé. Monsieur Barthélemy s'était levé ce jour-là plutôt qu'à son habitude et s'était contenté d'une pomme pour son petit déjeuner. Il avait considéré, après une brève réflexion, qu'il ne saurait décevoir par une opulence exagérée tout ce qui, probablement, lui faisait, ainsi qu'à sa sagesse, l'honneur de leur respect et qui sait, de leur admiration. trop heureux d'avoir pour une fois de quoi occuper pleinement sa journée, il avait beaucoup travaillé à l'établissement des chambres d'hôtes temporaires qu'il avait explicitement promises. Et déjà, ils étaient quelques-uns à les occuper. Il était donc rentré chez lui satisfait. Cependant, à peine s'était-il assis à table, s'apprêtant à manger, que l'on sonna. Madame Barthélemy alla répondre, mais l'appela aussitôt. Il y avait dans le jardin un attroupement de gens qui priaient le maire de les rejoindre dans la pénombre naissante. Monsieur Barthélemy, sortant sur le palier, identifia plusieurs de ses administrés, des pèlerins, ainsi que quelques journalistes, appareils photographiques en main. L'homme qui avait sonné était monsieur Théophile, qui, sans embâge, apostropha le maire.
« Les poils, monsieur, les poils du Seigneur, tout le monde en parle, c'est un hamster !»
Monsieur Barthélemy prit, non sans difficulté, l'air de réflexion qu'il avait appris à substituer à la surprise. L'élu du village eut alors une idée. Et tout investi qu'il était par l'espérance de chacun, il se mit sans maudire à marcher, dépassant le petit groupe jusqu'à sortir de sa propriété. Là, il bifurqua en direction de la maison du boulanger. Et qu'aurait-il pu faire d'autre, les uns par espoir, les autres par curiosité, que de le suivre ? Le cortège se faufila parmi les ruelles pavées et atteignit silencieusement la maison du boulanger, M. Toubert. Le maire appuya lui-même sur le bouton de la sonnette. M. Toubert ouvrit et se laissa aller apparaître interloqué. M. Barthélemy demanda à voir l'animal de compagnie de sa fille, sans en dire plus. Le boulanger, intimidé, appela sa fille sur le champ. Il y eut un moment de flottement, puis celle-ci parut, un hamster dans les bras. Tous les yeux se braquèrent, à travers la nuit, sur l'animal. M. Barthélemy s'en saisit, tandis qu'un léger tremblement parcourait son cœur. Et sans doute que, s'il n'y avait pas eu cet infime tressaillement de la part de celui qui, depuis le début de cette affaire, était toujours apparu comme l'homme de la situation, si M. Barthélemy avait pris l'animal comme on prend un animal, abruptement, sans ce léger mélange de peur et de respect que l'homme a surnommé piété, alors sans doute que personne, ni des curieux, ni même des attentistes pleins d'espoir, personne n'y aurait cru. Cependant, c'est dans une atmosphère sacrée que la procession se rendit à l'église, dans un silence que seuls les pleurs de la fille de M. Toubert bafouaient, elle à qui l'on enlevait son animal chéri, l'animal dont elle se plaisait parfois à arracher une touffe des poils pour en signe d'affection l'offrir à ses amis. On réveilla le père Inan et on lui fit, de ce pas, sonner les cloches. Après quoi, l'on installa le divin animal sur le petit autel de l'église. Il parut bien vite évident que le bénitier ferait un abreuvoir idéal. Devant la cohue croissante de gens priant à tout va, M. Barthélemy décida de faire évacuer l'église, et ce n'est qu'à cet instant qu'il remarqua Arnold Pfister parmi la foule. Celui-ci déclara « Allez avertir les gens qu'il faut » avant de disparaître aussitôt. La maison du Seigneur fut donc vidée, et M. Barthélemy décida d'y veiller cette nuit, accompagné du père Inan et de M. Théophile, qui se chargea de vérifier que personne ne tentât de s'introduire. Le lendemain matin, la nouvelle de l'incarnation du Seigneur se répandit à travers le monde entier. Dans l'après-midi de la même journée, on annonçait déjà 5 miracles, d'un paraplégique vénézuélien qui, en apprenant la nouvelle, avait sauté de joie, jusqu'à une nonne de 102 ans qui affirmait avoir été visitée dans ses songes par un hamster la nuit même et s'est réveillée guérie des rhumatismes qui l'accablaient depuis belle lurette. Invariablement, M. Barthélemy était associé au divin animal. Il fut bientôt l'élu, le prophète, ou encore le pape du renouveau. Cet air excitant d'historicité, de nouvelle ère, au fond, ne la prédisait-on pas depuis si longtemps ? C'était d'abord propagé dans les cercles de ceux qui étaient les plus ouverts à la superstition, les affamés d'espoir qui souffraient depuis toujours d'une souffrance crasse et prosaïque, qui avaient toujours cru mais n'avaient jamais vu. « Enfin récompensé !» avait-on envie de s'exclamer. Puis, on respira également cette bouffée d'oxygène jusque chez les désillusionnés qui avaient bu au goulot d'innombrables métaphores, contes, paraboles, sens cachés, interprétations, s'en remplissant jusqu'à se sentir définitivement, implacablement vide de tout espoir. Et voilà maintenant qu'on leur présentait non pas un dieu, si facilement immanent, si commodément invisible, mais un dieu tangible, plus tangible que n'importe quel livre, que n'importe quelle Bible. Puis s'y mirent ceux qui, dans le confort d'une spiritualité inexistante, n'avaient jamais voulu s'impliquer dans la grande cacophonie humaine qu'était la foi. mais qui y crièrent comme les autres, parce que l'occasion d'une foi simple, où on ne vous demande pas de croire, juste d'observer et de s'émerveiller, ne se représenterait pas de sitôt. On aurait dû, là-haut, penser plutôt à donner à l'humanité ce petit pas que les grandes idéologies, les grandes religions n'avaient jamais su franchir. L'Église, au commencement fermement réticente à ce qu'elle appelait dans son langage déjà démodé une hérésie, dut bien vite se mettre au pas et reconnut à l'animal un caractère indubitablement divin. Bien sûr, les grands théoriciens, les grands décideurs du christianisme, de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme et de toutes les autres doctrines voyaient tout cela d'un mauvais œil. Mais sans fidèles, les religions durent se résigner au compromis. Il devint par exemple chez les bouddhistes du dernier cri d'espérer une réincarnation au hamster. Ou encore le paternoster fut judicieusement remplacé par hamsternoster. Et le monde sembla tourner aussi bien que la roue dans laquelle le Seigneur faisait quotidiennement son exercice en une course vaine et folle. Chacun se découvrait une foi. Les vendeurs de hamsters furent les prêtres autoproclamés de cette nouvelle religion. Quant aux vendeurs de nourriture pour hamsters, ils se montrèrent parmi les plus fervents croyants, ainsi que bientôt parmi les plus fortunés. Naturellement, face à tout cela, une tendance alternative s'était développée. Un courant minoritaire qui, rechignant à vouer un culte à un hamster, avait choisi pour vrai prophète de la vérité un cochon d'Inde. Il y eut aussi le père Inan qui, rabat-joie, se révolta contre ce qu'il considéra comme une absurdité et s'en prenait à Hugo Déable, arguant que jamais science ne prouvera Dieu. Il fut destitué. Le généticien, lui, avait longtemps ri de consternation. Puis un jour, allumant sa radio, il avait entendu le décret officiel de destruction organisée des armes nucléaires instauré par les grandes puissances mondiales, au nom du caractère pacifique du hamster que tous devaient prendre en exemple. Le scientifique était de ce pas couru s'acheter un hamster dans le magasin le plus proche. Quant au comte, on n'avait rien tiré de lui, si ce n'est qu'il refuserait toujours d'adhérer à une religion qui, disait-il, prend ses racines dans le vol à une enfant de son animal de compagnie. Quoi qu'il en soit, ce vent d'euphorie souffla pendant quelque temps sur la planète, avant de se tarir abruptement. Monsieur Barthélemy avait eu, ce jour-là encore, une très rude journée de travail. Il avait mené plusieurs cérémonies religieuses à l'église qui était devenue son domicile, ainsi que pris part à un groupe de réflexion quant à savoir s'il était convenable d'installer un enclos au Seigneur, qui avait la fâcheuse habitude de se réfugier sur les poutres du plafond de la petite église, ce qui obligeait désagréablement les fidèles à, comme par le passé, lever les yeux au ciel pour l'implorer de descendre jusqu'à eux. On était arrivé à la conclusion que l'achèvement de l'édification de la nouvelle cathédrale, au plafond bien plus élevé, réglerait le problème. D'ailleurs, cela permettrait au couple Barthélemy d'être bien mieux loti qu'actuellement, dans l'exigu appartement qui avait appartenu au père Inan et qui possédait l'unique avantage de communiquer directement avec le lieu de culte. C'est donc, comme toujours satisfait et confiant d'avoir supporté l'immense charge des attentes qui pesaient sur lui, que M. Barthélemy alla se coucher. Certains diront qu'on ne peut reprocher à l'homme fatigué et accoutumé à des affaires d'une importance combien différente de ne pas avoir fermé la porte reliant son appartement à l'église. Ils seront toutefois plus nombreux à penser le contraire. Toujours est-il que, le lendemain matin, M. Barthélemy se réveilla au son d'un hurlement de son épouse, qui venait d'apercevoir au pied du lit conjugal des touffes de poils, pareilles à celles qui avaient tout déclenché, ainsi qu'une menue masse sanguinolente de chair qui avait vraisemblablement constitué il y a peu le Seigneur. Maraudeur, le chat, était d'ailleurs assis à ses côtés, attendant qu'on le récompensât comme il se devait d'une chasse si fructueuse, une lueur câline dans les yeux, de même que, M. Barthélemy l'aurait juré, un petit air triomphant de « Sic transit gloria mundi ». C'est sans doute le seul défaut d'un dieu tangible. À partir de cet instant, on peut l'imaginer, le monde de M. Barthélemy se délita. Lui, qui depuis sa première élection en tant que maire était parvenu à vivre sous le regard constant de quelques centaines d'administrés qui comptaient sur lui, croulait maintenant sous le spectre d'une humanité entière dont il crut probablement être responsable de la déception. Il ne sut qu'expliquer, on ne sut que comprendre.
pour la seconde fois, on criait à la mort de Dieu. Chacun revint alors avec une vérité, les guerres aussi. Avant de mettre fin à ses jours, M. Barthélemy vint se confesser au Père Inan. Je le reçus sans animosité aucune et lui donnai, pour ce qu'elle valait, ma bénédiction. Peut-être aurait-il été intéressé d'apprendre que le comte, quelque temps plus tard, fit fortune en commercialisant un fusil à lunettes dont le slogan de vente prétendait qu'il pouvait tuer un loup à 100 mètres.